Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Le Conseil de sécurité a examiné récemment la situation en Afrique centrale et les zones où sévit la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Les 15 ont entendu l'exposé du représentant spécial du secrétaire général dans la région, Abou Moussa. Ce dernier a fait part des préoccupations persistantes liées à l'instabilité croissante en RCA, la République centrafricaine, ainsi qu'à la prolifération de groupes armés dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo. Enfin, des pistes de solutions à ces crises en Afrique centrale sont évoquées dans ce magazine par Abou Moussa. Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Jean-Pierre Amissi Ramazani.
Je pense que si on se réfère au contenu de ce rapport, nous avons évoqué les deux préoccupations majeures de la sous-région, qui est la situation en RCA qui se dégrade, ainsi que la situation en RDC à l'est où il y a eu la défaite des M23. Donc voilà les deux situations qui menacent la sous-région sans pour autant oublier les menaces des groupes terroristes comme les Boko Haram. Et les effets de ce qui se passe du côté de Mali, ce n'est pas encore arrivé en Afrique centrale, mais nous devons continuer à maintenir une vigilance accrue.
Comment voyez-vous cette évolution justement? Commençons par la République centrafricaine. Que faut-il faire pour contribuer à restaurer la paix et la sécurité en RCA?
Il est clair que pour qu'il y ait un développement économique, il faut la paix et la sécurité. Et aujourd'hui, je me réjouis que tous les membres du Conseil de sécurité ont reconnu la nécessité d'agir rapidement parce que nous risquons de se retrouver face à une situation qu'on ne pourra plus contrôler ou bien nous mettrons beaucoup plus de temps à la maîtriser. Donc la situation, c'est comme si nous faisons un pas en avant et deux pas en arrière. Et cette situation n'est plus tenable pour la population, pour les femmes, pour les enfants, et même pour nos fonctionnaires qui sont en train de travailler, sans compter les humanitaires qui doivent aller servir les gens à l'intérieur. Il y a l'insécurité grandissante en ce moment dans ce pays.
Mais selon vous, sur quoi faut-il commencer en termes de priorité dans une situation chaotique comme celle qui est vécue aujourd'hui en RCA? Est-ce qu'il faut amener des troupes étrangères à l'intérieur du pays pour maîtriser la situation? Est-ce qu'il faut commencer par un dialogue politique? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Pour l'instant, il n'y a pas tellement de troupes gouvernementales en RCA. Les membres de SELECA ont été déçus. Et je crois qu'il y a une mission technique des Nations Unies qui est partie sur place, qui a fait des recommandations. Et certainement, vu la disponibilité des membres du Conseil de sécurité, je suis sûr qu'ils vont donner la ligne de conduite. Et à partir de là, je crois qu'on verra beaucoup plus clair.
Un autre problème en RCA qu'il faudrait absolument évoquer, dont vous avez parlé au Conseil de sécurité, c'est la présence de la LRA en RCA aussi. Ce groupe-là est aussi présent dans d'autres pays comme la RDC. Mais parlons un peu de la RCA. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place par votre bureau, par les Nations Unies, afin de mater cette pieuvre, cette nébuleuse de la LRA en République centrafricaine?
Vous savez, nous, le bureau des Nations Unies, sous la base des directives que nous avons reçues du Conseil de sécurité en 2011, nous travaillons avec l'Union africaine. Donc, l'initiative est l'Union africaine que nous soutenons. Et dès lors, l'Union africaine, nous avons établi une stratégie. Et la stratégie a deux volets. Il y a le volet militaire, il y a le volet humanitaire. Le volet militaire, c'est la mobilisation d'à peu près 5000 hommes par l'Union africaine. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de 3000 hommes qui font du très bon travail. Tandis que la deuxième partie...
Qui combattent, les hommes qui combattent.
Qui combattent, oui, qui traquent Kony tous les jours.
En RCA.
En RCA, avec non seulement en RCA, en RDC, au Sud-Soudan. Ce sont des contributions de ces pays, l'Ouganda, la RDC, le Sud-Soudan. À un moment donné, il y avait aussi les troupes de la RCA avant le changement de régime. Donc, ces contingents traquent tous les jours, évidemment avec l'appui logistique et conseil de 100 conseillers américains qui ont été déployés sur le terrain. Aujourd'hui, je crois que Kony et ses hommes, ne sont plus un peu l'espace de pouvoir s'installer. Ils sont traqués jour et nuit. Et les résultats que nous avons enregistrés depuis maintenant 3 mois démontrent que nous ne pouvons pas dire que c'est demain, mais bientôt, nous aurons une situation beaucoup plus positive et Kony appartiendra au passé. Mais nous ne devons pas oublier que Kony, c'est une chose, il y a aussi des victimes. Il faut qu'on s'occupe des victimes une fois que Kony n'est plus au front. Les victimes, on parle de 400 000 personnes qui sont déplacées aux réfugiés. Il faudrait que ces personnes puissent regagner leur village respectif, qu'on puisse fournir les outils agricoles, qu'ils puissent rebâtir leur maison et que l'autorité aussi soit présente. Parce que l'un des problèmes, c'est l'absence de l'autorité dans ces endroits.
Joseph Kony, où est-il actuellement?
Justement, tout le monde me pose cette question, à savoir là où ils sont. Mais je ne saurais pas vous le dire parce que ils bougent. Personne n'arrive à nous dire où ils se trouvent, si ce n'est que les rapports des journaux qui rôdent entre la frontière du Sud-Soudan. Tantôt, on apprend qu'il est en RCA, mais nous n'arrivons pas à vérifier toutes ces informations.
Alors, passons à un autre pays. Qu'en est-il donc de la RDC? Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui est en train de changer en République démocratique du Congo actuellement?
Il y a eu la situation politico-militaire à l'est du Congo, hormis les autres mouvements armés à l'intérieur de ce pays. Vous savez, la RDC a 9 frontières. C'est un pays très vaste. Mais particulièrement, parlant de l'est du Congo, où depuis un certain temps, il y a eu ces accrochages, il y a eu ces confrontations entre l'armée régulière et le groupe qu'on appelle M23. Il y a eu presque une année et demie de négociations. Malheureusement, ces négociations n'ont pas abouti à quelque chose de positif, parce que si ça aboutit, on allait déjà signer un accord définitif. Il a fallu se résigner en affrontement. Et avec cet affrontement, le M23 a été battu, ils se sont dispersés et conformément à la demande du Conseil de sécurité, on compte sur la signature d'un accord définitif pour sceller la fin des guerres.
Monsieur le représentant spécial du secrétaire général, est-ce que l'exemple qui vient de se passer au Congo entre l'armée congolaise qui a combattu donc les M23 est un exemple qu'il faudrait peut-être dupliquer ailleurs pour combattre les groupes armés? Est-ce que les groupes armés ne comprennent que le langage de la guerre ou de les combattre militairement? Est-ce que vous pensez que la diplomatie, le dialogue a encore sa place quand il s'agit en Afrique centrale précisément de combattre les groupes armés, de combattre les groupes rebelles?
J'espère que ce qui s'est passé en RDC servira comme leçon pour tous les autres groupes. C'est-à-dire que à partir du moment où le gouvernement donne une atmosphère de discussion et de négociation, il faudrait qu'on puisse profiter pour discuter, négocier et aboutir. Il est clair que dans une situation de confrontation, il faut un compromis. Il y a un qui perd, il y a un qui gagne et vice-versa. Mais ce n'est pas parce qu'on est stupide, mais c'est pour l'amour du peuple. Parce qu'à partir du moment où il y a un affrontement, c'est la population qui va payer le prix. Voilà pourquoi je pense qu'il faut d'abord donner la chance à la négociation, au dialogue. Si ça n'aboutit pas, il faudrait maintenant chercher d'autres moyens. Qui pourrait être aussi ce que vous venez de dire. Mais ça doit être en dernier lieu, vu que les bombes n'épargnent pas les enfants, les femmes, les infrastructures. Donc il faut toujours essayer d'éviter, parce que pour reconstruire toutes ces infrastructures, il faut de l'argent, et ça coûte très cher en vie humaine. Alors moi, je pense qu'il faudrait d'abord miser sur les négociations avec l'appui de la communauté internationale aussi, parce que, vous savez, quand il y a des problèmes entre deux personnes, il faudrait aussi que les autres personnes non intéressées essayent d'aider les deux parties pour trouver un compromis.
Monsieur Abou Moussa, nous venons de parler de la RDC et de la RCA. Est-ce qu'il y a d'autres endroits en Afrique centrale, dans d'autres pays, où il y a des conflits résiduels qui préoccupent les Nations Unies? Il n'y a pas que RCA, RDC, il y a le Tchad, il y a le Cameroun, il y a le Gabon, il y a Guinée équatoriale, Sao Tomé, Angola et autres, Burundi. Est-ce qu'il y a d'autres conflits résiduels qui vous préoccupent actuellement?
Mais oui, une situation qui me préoccupe, une situation préoccupante qui se passe actuellement au Nigeria, avec le groupe qui s'appelle Boko Haram. Boko Haram, jusqu'ici, opère à l'intérieur du Nigeria. Ils ont fait tellement de dégâts. Ils sont en train de combattre le gouvernement et en le faisant à travers les populations. Les étudiants ont été brûlés vifs dernièrement. Mais le danger, c'est que ça commence à dépasser les frontières. Il y a quelques mois, une famille de quatre a été libérée. Les gens ont été pris en otage par le groupe Boko Haram. Et il y a 3-4 jours, un prêtre catholique, un révérend père, a été kidnappé à l'intérieur du Cameroun. Donc ça déborde maintenant les frontières. Ça, c'est préoccupant pour nous.
Alors, parlez-moi des réalisations de votre bureau. Vous avez un bureau, vous dirigez un grand bureau qui est basé à Libreville et qui s'occupe de tous les problèmes qu'il y a en Afrique centrale. Oui. Alors, quelles sont les grandes réalisations que vous avez donc accomplies pendant ces derniers temps?
Vous savez, la prévention, la politique de prévention, parfois, ce n'est pas aussi visible que ça. C'est comme tout ce que nous faisons à l'ONU. Tous les jours, il y a des conférences, des réunions pour éviter la guerre, pour éviter les conflits. Mais le monde entier n'est pas informé. C'est exactement la même chose. Nous intervenons, nous essayons d'utiliser la médiation, les bons offices du secrétaire général, en dehors des dossiers que nous suivons tous les jours, comme la LRA, comme l'insécurité maritime et autres. Mais nous agissons chaque fois qu'il y a une situation qui se développe pour éteindre le feu rapidement. Certains de ces dossiers sont assez sensibles, qu'on n'aime pas trop en parler pour ne pas mettre en cause nos initiatives. Mais ce que je peux vous dire, depuis 2 ans maintenant que nous sommes là, nous sommes arrivés à attirer l'attention du Conseil de sécurité sur un certain nombre de grands dossiers où il y a des menaces. Je vous donne un exemple. Lorsque nous avons soulevé le problème de braconnage au Conseil il y a 6 mois, nous avons reçu énormément de soutien, nous avons reçu énormément d'intérêt exprimé par des agences onusiennes comme les ONG qui s'intéressent à ce problème. C'est ça, en fait, le rôle de notre bureau. Une fois que nous voyons une situation qui menace la paix et la sécurité, nous faisons l'écho à l'intérieur, au niveau du Conseil de sécurité. Et quand le Conseil de sécurité est saisi, ça veut dire que le problème mérite d'être considéré sous tout point de vue. Le défi essentiel pour nous, c'est la libre circulation. Libre circulation parce que, à l'instar de ce que nous voyons en Afrique de l'Ouest, à partir du moment où les populations peuvent circuler librement, ça peut aider à développer les commerces. Ça peut aussi démontrer qu'il y a la paix et la sécurité.
C'est sur cette note que s'achève notre magazine Escale, consacré aujourd'hui à l'évolution de la situation en Afrique centrale, avec notre invité Abou Moussa, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale et chef de l'UNOCA, le bureau régional de l'ONU pour cette région. Escale est un magazine de la Radio des Nations Unies. Il vous a été présenté par Jean-Pierre Amissi Ramazani avec l'assistance technique de Rebecca Mudio et de Zach Pruitt. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie de l'avoir écouté. À la semaine prochaine.